Contrairement à l'apparence, c'est pas moi qui prêche. Original, hein? C'est notre frère Jean Cavallaro qui est retenu pour motif de contact Covid jusqu'à peu de jours, je pense, hein? Mardi. Alors, il m'a confié son texte que je vais donc vous lire. Ceci aussi pour que vous sachiez que le dictionnaire grec n'est pas venu m'habiter dans la nuit. Hein. Ce texte, en fait, est le texte proposé par notre association à toutes les églises. Donc on peut penser que probablement à peu près toutes les églises, en ce moment, peut-être un petit peu plus tôt, certaines commencent à 9h30, d'autres plus tard, ont ce texte à lire et à méditer. Donc je le lis dans Philippiens 1, les versets 3 à 11. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion. Et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu. Car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous, son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile, que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en plein discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez pur et irréprochable au jour du Christ où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Paul est plein de joie chaque fois qu'il pense aux chrétiens de Philippe dans ses prières. On lit dans le livre des Actes que Paul et ses compagnons ont fondé cette église de Philippe lorsqu'ils ont mis les pieds pour la première fois en Europe. Philippe était une ville importante au nord de la Macédoine, colonie romaine bien entendu. Il n'y avait pas de synagogue juive dans cette ville, et de ce fait, les quelques juifs qui habitaient cette ville, et aussi ce qu'on appelait les craignants Dieu, c'est-à-dire les non-juifs qui avaient adopté la foi au Dieu unique, eh bien, se réunissaient pour la prière au bord d'une rivière. C'est là que Paul et ses compagnons ont fait la connaissance de Lydie, une païenne craignant Dieu et d'autres femmes avec elle. Et il nous est dit que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie, de sorte qu'elle reçut l'évangile prêché par Paul. Elle se convertit, elle fut baptisée, elle et toute sa famille. Par la suite, à Philippe toujours, Paul a exorcisé une pauvre servante qui avait un esprit de divination et que ses maîtres exploitaient. Très fâchés de voir cette source de profit leur échapper, ils ont suscité une émeute contre Paul et ses compagnons. Les voilà emprisonnés, un tremblement de terre et les portes de la prison s'ouvrent. Le gardien, croyant que les prisonniers se sont échappés, veut se suicider. Mais Paul le rassure, les prisonniers sont tous là. Paul annonce l'évangile au gardien, lui et sa famille se convertissent, puis ils sont enfin relâchés par les autorités de la ville, mais contraints de la quitter. Une église y a néanmoins été implantée, avec pour point de départ la maison de Lydie. C'est à cette époque que Paul écrit, et on voit que cette église est déjà bien structurée dans ce qu'il dit. Il s'adresse aux membres du peuple saint qui vivent à Philippe, ainsi qu'à ses dirigeants. Et le terme épiscopos traduit par surveillant ou évêque, les diacres aussi. Ce qui motive cette lettre de Paul aux Philippiens, c'est sa reconnaissance pour leur amour. Amour qui les conduit à prendre une part active à la proclamation de l'Évangile. Paul parle, dans les versets que nous avons lus, de leur solidarité ou communion qui, dès le début et jusqu'à maintenant, a effectivement contribué à l'annonce de l'Évangile. C'est cette solidarité, cette communion que nous voulons vivre aussi en ce dimanche de l'Association des Églises Baptistes. Cette communion dont parle Paul s'est manifestée concrètement par des dons d'argent que les Philippiens lui ont fait parvenir par leur délégué Epaphras. Au sein de l'association baptiste, nous pouvons aussi, quand nous le pouvons, traduire une solidarité de ce type par une aide financière aux églises qui en ont besoin. Cette solidarité contribue à la proclamation de l'Évangile. Et c'est cela qui réjouit Paul. Les Philippiens prennent une part active et concrète au ministère de l'apôtre. Alors, en retour, en quelque sorte, de cette communion, Paul prie pour eux. Et que demande-t-il? Il demande que leur amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance et en parfait discernement pour qu'ils puissent discerner ce qui est important. Et le mot que Paul utilise ici, dans l'original grec, signifie les choses qui comptent, les choses qui font la différence, les choses qui valent la peine vraiment. Ce discernement des choses qui font la différence, qui valent la peine, c'est la conséquence de leur amour pour l'Évangile de Christ, auquel ils prennent part en soutenant Paul. Alors je pose la question, dit Jean, avons-nous ce discernement pour les choses qui comptent? Notre amour pour l'Évangile de Christ nous pousse-t-il à identifier ces choses qui comptent et surtout à nous y engager de toutes nos forces? Ou bien gaspillons-nous notre énergie, notre temps pour des choses plus futiles, jusqu'à des préoccupations que le diable met dans nos pensées pour nous détourner précisément des choses qui comptent et qui font la différence? Si ces choses qui comptent occupent nos pensées et mobilisent notre énergie, nous serons purs et irréprochables au jour de Christ, jour où nous paraîtrons devant lui, chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en nous à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà ce qu'il nous faut garder en ligne de mire, l'approbation de notre bien-aimé Maître à tous. Alors, en parcourant cette épître, j'ai relevé, dit Jean, quelques domaines concrets où le discernement des choses importantes fait la différence. Chapitre 1, verset 27. Mener une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile. Et le verbe utilisé ici est traduit par « lutter », indique la détermination d'un soldat qui ne cède pas un pouce de son poste. Et au verset 30, Paul ajoute, « Vous êtes en effet engagé dans le même combat que moi. » Sommes-nous conscients que ce combat pour l'Évangile dans lequel nous sommes engagés est aussi âpre et déterminé que celui que vivait Paul? Mais il y a des conditions pour combattre efficacement. Conditions qui, dans l'Épître aux Philippiens, concernent notamment les relations entre nous. Chapitre 2, verset 1. N'avez-vous pas de l'affection, de la bonté les uns envers les autres? Il me semble que si Paul pose la question, c'est qu'il a quand même discerné des manques dans l'amour fraternel des Philippiens. Y a-t-il aussi des manques chez nous? Je laisse cette question sur votre cœur, dit Jean, comme sur le mien. Alors Paul exhorte, versets 2, 3 et 4. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Ayez le même amour, une même pensée. Tendez au même but. Ne faites rien par rivalité, mais au contraire, soyez humbles. Que chacun regarde non ses qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre entre vous ainsi, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Et Paul, alors, dans cet épître, nous livre ces merveilleux versets qui sont au chapitre 2 et qui sont probablement, qui ne sont pas projetés, et qui sont probablement la citation d'un cantique de l'Église primitive. Lui qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Chapitre 2, verset 14. « Faites tout sans vous plaindre !» Imaginez une église où les gens ne se plaignent pas. Et Jean, entre parenthèses, il met le rêve de tout pasteur. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Nous sommes des porte-flambeaux. Alors relevons la tête au lieu de nous plaindre. Soyons plutôt fiers d'être les porteurs de la parole de vie. Et puis au chapitre 3, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Si on y pense, on va éviter de se lamenter. Un peu plus loin, chapitre 3. Dans ce verset, Paul parle de lui-même, mais on peut l'adapter pour chacun de nous. Oubliant ce qui est derrière nous, et tendant de toute notre énergie vers ce qui est devant nous, poursuivons notre course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Et puis au verset 20, plus loin. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Tenez ferme, verset 4, en restant attaché au Seigneur. Paul termine ses exhortations par une dernière très personnelle qui montre qu'il connaissait bien les frères et sœurs de l'église de Philippe. C'est au verset 4, je vous le lis. Je recommande à Évodie et Saint-Tiche à vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, alors on ne sait pas qui est ce fidèle collègue de l'église de Philippe, mais il a dû probablement se reconnaître à la lecture de cette lettre. Je te le demande. Viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Ces deux sœurs de l'église de Philippe ne sont pas n'importe qui. Elles ont combattu aux côtés de l'apôtre pour la cause de l'Évangile, des battantes. Mais il semble qu'elles aient peut-être le défaut naturel des battants. Ils n'arrivent pas toujours à s'entendre. Est-ce que cela diminue leur valeur aux yeux de l'apôtre comme aux yeux de Dieu? Pas du tout. Mais il faut cependant que le fidèle collègue de Paul leur vienne en aide. Nous ne doutons pas qu'il s'est empressé d'obéir à Paul et qu'il a fait ce qu'il fallait pour les réconcilier. Ainsi, la communion fraternelle est rétablie et elle peut continuer à se battre pour la cause de l'Évangile. Ce qui est en jeu, c'est de ne pas perdre de vue le but de notre service chrétien. Proclamer l'Évangile dans l'Église et au dehors. Une chose est sûre, c'est que cette proclamation ne plaît pas au diable, qui fera tout ce qu'il peut pour y faire obstacle. Lors de la mort de Christ sur la croix pour nos péchés, le diable a perdu la guerre. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à livrer des batailles désespérées, comme l'Allemagne nazie en 1945. Et c'est dans ce combat-là que nous sommes engagés, avec la certitude de la victoire totale à la fin. Romains 16. Votre obéissance, écrit Paul, est connue de tous. C'est aux Romains qu'il parle. Et cela me remplit de joie. Mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptible à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen.